Vous écoutez
RMC.
La tactique, on en parle. Julien Beaumont, bonsoir.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Alors on a démarré avec toi la semaine dernière, on continue cette semaine, on parlera des coups de pied arrêtés, peut-être demain ou après-demain, on verra. Mais ce soir, on va continuer ce qu'on n'a pas tout à fait terminé de faire la semaine dernière, c'est-à-dire évoquer cette thématique là que tu développes sur les joueurs à tout faire. Et tu dis que nous sommes entrés dans l'ère du joueur à tout faire. Explique-nous quel est le concept.
Avant on n'était pas beaucoup, maintenant il y en a un peu plus.
Non mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était déjà commun pour un milieu de terrain comme Jérôme de pouvoir tout faire, être impliqué défensivement et offensivement, mais c'est quelque chose qui s'est répandu à tous les autres postes.
On connaît des joueurs de côté qui sont moyennement impliqués défensivement.
En plus, voilà, c'est ça. C'était pas toujours, il y a eu aussi des spécialisations dans l'entrejeu,
mais j'ai pas souvenir que Jérôme revenait systématiquement défendre.
Mais alors tu dis une grosse connerie. Faire un compliment, le coupe pas, tu lui enlèves
tout. Pardon, Julien, vas-y, continue.
Mais en plus,
laissez-le.
Non, mais Jérôme jouait parfois couloir, parfois dans l'axe, c'était là aussi.
C'était partout.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit cette étape-là franchie dans tous les autres postes, un gardien ne fait plus qu'arrêter des tirs, un défenseur ne fait plus que défendre, un attaquant ne fait plus qu'attaquer, ils sont impliqués dans tous les styles d'action. Et on voit un latéral, par exemple, en effet, qui va apporter offensivement, mais qui peut aussi être passeur maintenant, comme on le voit avec Trent Alexander-Arnold ou comme Kimmich quand il jouait latéral. On voit des numéros 10 maintenant qui sont des joueurs explosifs, on voit des défenseurs centraux qui sont des grands relanceurs. On voit Onana à l'Ajax qui va s'insérer au sein de sa défense centrale, c'est lui qui monte pour ajouter un surnom sur la première relance. Bref, on a vraiment ces joueurs qui désormais, sur toutes les phases du jeu, sont amenés à porter des choses nouvelles. On a pu ce jeu segmenté, comme c'était le cas il y a 30 ans peut-être.
Et ça, on le voit dans l'excellence.
C'est évidemment
c'est quelque
ça.
Chose qu'on voit dans certains clubs où il y a une patte, où il y a un travail, on va dire, mis en place par un entraîneur depuis pas mal de temps. Il y a des conditions à la découverte de ces profils-là. T'es d'accord ou pas?
Ouais. Et de toute façon, on est vraiment évidemment sur le plus haut niveau, là où on va rechercher le joueur le plus complet possible, parce que toutes les configurations doivent être gérées de la meilleure manière possible au plus haut niveau. Il faut être capable de répondre à une défense basse, à une équipe qui vient presser.
Est-ce que ça s'inclut, est-ce que ce que tu dis inclut des mecs comme Bernardo Silva, qui sont capables de jouer en haut côté ou de venir dans le cœur du jeu au milieu et d'avec son gabarit? A priori, tu te dis, bon, le gars, il va pas vraiment défendre. Et en fait, il est capable de se battre comme un chien, ou ce qu'on a vu faire même à un mec comme Mahrez, qui a priori était pas non plus un mec, tu te dis, va pas aller trop dans la baston, et il peut ou De Bruyne. Ouais. Alors là, je cite que des mecs de City. Donc est-ce que c'est pas collé aussi, je le répète, à des...
Quand on voit Alexander-Arnold à Liverpool, qui est un latéral, il a été formé milieu de terrain, replacé latéral, c'est un poste intéressant parce que c'est là aujourd'hui où il y a le plus d'espace finalement, parce que c'est pas trop la zone où les adversaires vont presser tout de suite. Et donc c'est intéressant d'avoir un passeur comme lui, capable, comme un milieu d'antan finalement, de casser des...
Bien sûr.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est les entraîneurs qui ont le plus de temps avec leur groupe. Quand je dis, là, tu me cites également Klopp à Liverpool, des mecs qui peuvent travailler, plus façonner l'effectif. Tu crois pas que c'est un peu lié à ça?
C'est plus des profils de poste, parce que Julien a raison sur le fait que, par exemple, ce poste de les latéraux, à gauche ou à droite, aujourd'hui, on leur demande comme avant, mais encore plus aujourd'hui, physiquement, et surtout dans certains clubs comme Liverpool, on leur demande un apport conséquent offensivement, de se retrouver à une position où avant ils ont été formés plus haut et ils sont en retrait, mais vu qu'ils participent beaucoup au jeu offensif, en fait ils ressentent pas le manque et surtout ils se retrouvent face au jeu. Et c'est vrai que ce poste de la
c'est vrai que historiquement c'est souvent des ailiers qui ont été reconvertis. Patrice Evra, c'était un ailier.
Ouais.
Maintenant on voit des milieux de terrain axiaux reconvertis
exactement
ces rôles là parce que c'est des apports de passe aussi, plus seulement de course.
Ouais, t'as beaucoup d'exemples de ça, de mecs
dans quel genre
de football est-ce que t'as pas ça aussi? Et genre, revient toujours à la patte de l'entraîneur. T'as pas ça dans les équipes de Nagelsmann, par exemple, aussi. Des mecs, t'as l'impression qu'ils sont un peu bons à tout faire, des gars qui peuvent changer de poste, qui de défenseurs centraux se retrouvent milieu offensif.
À Leipzig, Nkunku est un bon exemple. Il a joué piston, il a joué milieu offensif.
Il joue un peu
comme attaquant.
C'est un bon exemple.
Ouais.
Et ça confirme un peu cette idée-là, en effet. Et c'est souvent lié, en effet, à des entraîneurs qui vont être très flexibles tactiquement.
C'est ça.
En Italie, notamment, c'est Renzo Olivieri, le responsable de la formation des coachs italiens, considère que le futur du foot est un petit peu déjà aussi le présent.
C'est l'équivalent, Renzo Olivieri, c'est l'équivalent de la DTN. Oui,
c'est exactement.
C'est ça.
C'est la flexibilité tactique. En effet, les coachs qui changent le système match après match ou en cours d'un même match.
Et donc,
il faut des joueurs qui peuvent utiliser les joueurs à des postes un peu différents.
Ça doit remettre en question aussi la façon de penser des joueurs, parce que les joueurs, ils veulent toujours être fixés à un poste. Tu vois, par exemple, de Camara à l'OM.
Ça, pour moi, c'est fini, ça.
Camara,
pour moi,
c'est une erreur. Mais moi, je veux jouer là où je préfère être défenseur central, le truc.
En fait, d'être fixé.
Pour moi, c'est une erreur.
Alors, moi, je te dis.
Et peut-être que, du coup, il faut que les joueurs, ils voient maintenant différemment aussi leur carrière. Parce que la polyvalence peut être un atout, en fait, dans
leur carrière. Le joueur, quel qu'il soit, et que ça soit aujourd'hui ou avant, il a un poste où il se sent le mieux. D'accord? Il se sent le mieux parce que, il sait qu'il va apporter, son point fort va jouer. Et Pierre, il va pas me contredire. Donc, à partir de là, t'as ce poste-là et tu sais que tu vas t'éclater.
Sauf si dès 15-16 ans, t'as été habitué, comme dit le mec à la DTN en Italie, où il veut que des mecs, même si dès 15-16 ans, t'as joué à plusieurs postes.
Daniel,
et que t'allais, regarde un mec comme Kimmich.
Regarde, moi, je vais te dire.
On encourage l'information. De Ligt, par exemple, bah ouais. L'Ajax a joué milieu de terrain pour développer un petit peu son explosivité.
Et regarde, moi, je vais te donner mon exemple. Alors après, je suis pas la référence, mais mon exemple, c'est que quand j'étais formé, parce que physiquement et tout ça, j'ai joué numéro 6. D'accord? Numéro 6 devant la défense. J'avais 13 ans. 13, 14, 15 ans. Et pourtant, avec mon pied, tout le monde disait pied gauche. Avant, c'était, il va jouer côté gauche pour mettre, comme j'ai fait une grande partie de ma carrière. Mais j'ai été formé là pour, si tu veux, me développer le sens du jeu, la vision du jeu et pour me libérer aussi, du contact. Tu vois, d'être un peu plus en retrait
face au jeu, de l'espace.
Un peu ce que sont les latéraux aujourd'hui. C'est plus facile aujourd'hui de jouer sur un poste de latéral droit ou latéral gauche que plus haut devant, parce que tu te retrouves souvent soit dos au jeu. Et c'est compliqué parce qu'il faut avoir les armes de se retourner, de faire le bon contrôle orienté et par moment d'être un peu plus bas sur le terrain face au jeu, c'est plus simple. Donc c'est pour ça qu'en fait tu te développes comme ça. Mais à l'arrivée, t'as un poste que tu préfères, mais c'est pas dramatique d'avoir un poste que tu préfères.
Non, mais je trouve, moi, il y a encore quelques, je sais pas si c'est années, mais où t'entendais des discours ou des joueurs ou des entraîneurs disaient, la polyvalence, c'est bien, mais c'est presque un défaut. Des entraîneurs en France, c'est un discours qui était assez entendu en France, à critiquer la polyvalence, parce qu'on a l'impression, à force d'être polyvalent, ils jouent plus nulle part. Alors que moi, j'avais du mal à entendre ça. Je pense que c'est plutôt une qualité. Et si Julien nous le dit, c'est une tendance. Et effectivement, on le voit dans de plus en plus de grandes équipes où t'as des mecs qui peuvent jouer à des postes différents. Et je trouve que c'est très intéressant. On est complètement sorti de l'époque et de la fameuse citation de Bilardo.
Quand on a trop, c'est
problématique. Vient de la citation de Bilardo, Jérôme.
De Bilardo.
De Carlos Bilardo.
Oui, bah oui.
Les joueurs de foot sont comme les femmes. Ils n'aiment pas évoluer dans des positions où ils sont pas à l'aise.
Oui. Moi, je pense, messieurs, que
elle est vraie, la citation de Bilardo.
Ouais. C'est pour ça qu'il faut rendre le.
Alors que tu préfères la polyvalence, toi.
Donne la parole à Pierre Ducroix, on va dire une connerie.
Mieux, ouais.
Pierre.
Non, ça dépend surtout de la qualité du garçon. En premier, déjà, Daniel a raison. Un mec qui va être capable de jouer trois postes et d'y jouer parfaitement, il y aura aucun souci avec aucun entraîneur. Au contraire, les entraîneurs vont être ravis. Un mec qui peut jouer trois postes, mais qui finalement n'est pas très bon à un seul de ces trois postes, et ben ça veut dire qu'il y a un manque de qualité. Voilà. Ouais. Alors ça passera peut-être un certain niveau, puis ça passera pas au-dessus. Moi, j'allais prendre. Tu parlais de formation, Jérôme. J'allais prendre l'exemple d'un jeune que j'ai moi qui a Caen, qui peut jouer aussi bien défenseur central. Il n'est pas vieux, hein, il est en équipe de France U17. Il peut jouer défenseur central, il peut jouer 6, hein, le vrai 6 devant la défense, sentinelle tout seul. Et puis il peut jouer même milieu relayeur 8-10. Et il a cette aptitude à pouvoir s'adapter et à être aussi bon quasiment à ces trois postes dans toute la colonne vertébrale. Ben, c'est parce que la qualité du garçon est là. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Ça rejoint un peu le débat qu'on avait la semaine dernière, Pierre, sur l'intelligence.
Ouais,
et le développement de l'intelligence du joueur.
Bien sûr. Et des joueurs comme ça.
Cadre du poste, mais si on entraîne les joueurs à réfléchir et à résoudre des solutions dans différentes zones, au final,
exactement.
On développe
exactement.
Leur adaptabilité.
Des joueurs comme ça, ce serait péché de pas les faire progresser aux différents postes où ils peuvent être ensuite utiles et à l'aise. Après, je te rejoins aussi, Jérôme. Il y a des joueurs qui n'ont pas suffisamment de qualité pour être polyvalents et il faut qu'ils progressent énormément à leur poste pour réussir à faire une carrière juste honnête, quoi. Voilà.
Oui, et puis, ça existe. Et puis, t'as aussi ce que veut mettre en place l'entraîneur, parce que t'as des entraîneurs qui restent vraiment dans figé, un style bien précis, figé. Ils bougent pas. Et on en a tous connu aussi. Et j'ai aussi connu, là je donnais l'exemple d'Alain Perrin à Troyes. Moi, Alain, il m'a permis de gagner en volume de jeu. Pourquoi ? Parce que j'ai joué à tous les postes. J'ai joué milieu droit, attaquant droit, milieu défensif, arrière gauche, ailier gauche, numéro 10, franchement.
Ouais, mais Alain Perrin, un entraîneur qui est parti de ces entraîneurs qui pensent, qui est pas figé.
Exactement.
Non, il aime c'est un ça. Petit peu varier, avoir des visions différentes. Mais oui, c'est, bah, moi, c'est ce que je mets toujours en avant. J'aime les gens qui pensent dans le foot.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la base. Les meilleurs entraîneurs, c'est ceux-là. C'est ceux-là, c'est ceux qui arrivent à avoir une sensation différente d'un match à un autre.
Aujourd'hui, un mec comme Nagelsmann, pour prendre cet exemple dans la cité tout à l'heure, enfin, c'est le gars, t'as l'impression, il est en laboratoire permanent, Julien, c'est un mec qui réfléchit énormément. Un mec qui arrive dans son club, bon, évidemment, s'il est arrière-droit, rarement il sera avant-centre. On est bien d'accord. Mais les gars, souvent, peuvent se dire, ah, il y a de fortes chances que le mec me réévalue.
Oui, mais c'est parce qu'aussi, en effet, ça rejoint ce que tu dis aussi sur le côté, le rôle de l'entraîneur, mais aussi plus globalement l'identité de l'équipe dans laquelle il évolue. Ouais. C'est que ce sont des joueurs, des clubs où les principes sont très forts et sont forcément partagés par tous les joueurs. Et ils sont globalement les mêmes à tous les postes au final. Donc on a un Sabitzer, par exemple, à Leipzig, qui peut jouer ailier, mais qui peut aussi très bien, quand il y a des absences, dépanner devant la défense, comme on l'a vu.
Oh, il l'a fait, exactement. Terrain axial, exactement. Et très bon d'ailleurs.
Exactement. Donc cette flexibilité, elle est aussi entretenue et enrichie par l'intégration des principes de jeu très clairs par tous les joueurs.
Moi, je trouve que c'est le football. Enfin, c'est le football d'aujourd'hui pour les grands clubs dont on parle. Pour moi, c'est le football de demain. Quoi. Il faut que ce soit comme ça. Et si, on en revient toujours à nos fameux centres de formation, à ce qu'il faut faire dans notre période. J'encouragerais tous les gens aujourd'hui en France à essayer de travailler comme ça.
On travaille très bien. Enfin, bon, évidemment, il y a toujours des disparités, mais quand on va discuter avec les responsables de la formation à Lorient ou même à Lyon, etc., il y a une vraie réflexion là-dessus sur comment développer.
À Caen, tu es allé parler de la formation. Pierre, c'est qui à Caen, le directeur du centre là? C'est toujours le même.
Il y a eu longtemps le fameux règlement de compte Caen.
Hein?
Non, toujours le même. Tu parles de quand? De ton époque à toi?
Non. Là, c'est
en
qui
en ce moment? C'est qui là?
C'est pas de Tadeo.
Monsieur Nadeau. Non, c'est Nadeau. Non,
Tadeo,
il est parti depuis un petit moment.
Tadeo, tu confonds avec la copine de. Le copain de Bronco, là.
Il était il y a quoi? Il y a 3-4 ans, et encore.
Il y a 2 ans, encore.
Ah, il y a 2 ans encore. Mais de Tadeo, j'ai
qui
eu. De Tadeo, il était directeur du centre à Caen.
Tadeo, arrête, c'était un gag en fait.
Et 2 ans, mais il y a 2 ans.
C'était un gag en formation. Et lui, ce qu'il voulait, c'est des costauds pieds carrés.
J'aimerais qu'on conclue, Julien.
Excuse-moi, mais quand t'as ce genre de directeur de centre. Et Pierre me disait qu'il avait un joueur qui passait, mais je me disais, mais attends, mais c'est pas de Tadeo qui peut faire ça, c'est pas possible.
Bon,
donc là, il m'a rassuré, c'est plus lui.
Tiens, j'ai un message de l'ami sur Direct Studio qui me dit, attention, c'est pas nouveau, Fabregas a été un exemple de ça entre 2006 et 2012. Avec l'Espagne, il jouait faux neuf. À Arsenal, aussi, hein. Il était meneur de jeu, ouais, et sur sa fin, voilà. À Barcelone, il était côté gauche.
On revient à sa formation, aux idées de jeu dans lesquelles il a grandi.
Déjà, au Barça, Guardiola évolue un peu comme aujourd'hui, avec un Alves, c'était pratiquement un ailier droit, et le central l'arrière-gauche devenait un central.
Est-ce que ça t'a pas aussi changé?
Non, mais attends, tu sais, on parle des joueurs et tout ça, mais en fait, ces joueurs-là, mais pourquoi ils changent de poste? Parce que il y a une base, c'est que techniquement, ils sont largement au-dessus des autres.
Oui.
Donc, ils peuvent faire
parfois,
ce qu'ils veulent et ils ne sont pas emmerdés.
Alors, est-ce que ça n'a pas aussi changé la façon dont les analystes, les consultants, les journalistes qui suivent le foot, voient les choses? Je te prends un exemple concret, Marquinhos. Marquinhos, quand il joue devant la défense, le premier réflexe du monde, c'est de dire « Ah ouais, mais il joue là parce que bon, c'est pas son poste. » Alors qu'en fait, au final, on devrait pouvoir dire, il peut jouer là, comme il peut jouer aussi.
Sauf que vite, tu as le droit de remarquer qu'il n'est pas méga à l'aise, qu'il n'a pas des automatismes.
Il avait été bon à Manchester l'an passé.
Alors c'est peut-être pas de l'exemple. Tu vois, mais de la façon d'analyser.
Non, mais c'est pas le bon exemple du tout, donc tu fais une connerie.
Bah, trouve-moi un autre exemple alors.
Mais non, mais à Paris, non, excuse-moi.
Marquinhos, il n'est pas méga. Il peut le faire avec
de la
volonté. Oui, bien sûr. Maintenant, tu as le droit de noter que techniquement, il n'est pas habile comme tous les mecs qu'on a cités avant. Il n'a pas cette habileté technique-là.
C'est pas que techniquement, si je peux me permettre, Daniel, c'est pas que techniquement il est pas habile, parce que quand il est face au jeu, que ce soit au milieu de terrain ou derrière, il est très habile, il est très technique. Sauf que il a une difficulté pour moi, Marquinhos, c'est quand il est dos au jeu, sous la pression, dans ses prises de balle, pour se retourner, pour juger un peu l'espace qu'il a. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement.
Belle correction, monsieur Ducrot.
Alors, je prends un autre exemple.
On peut regarder cet exemple-là. On réintègre ça dans un contexte de match et de scénario de match. Quand on est dans une optique pour Paris, peut-être, de laisser le ballon à l'adversaire, de devoir aussi gérer comme c'était le cas.
Pourquoi pas,
ça ne leur arrive pas souvent, c'est plutôt d'être un peu sous pression.
Oui, en effet, mais on peut imaginer dans un grand match, en effet, ça peut être une solution ponctuelle. Et ce n'est pas aberrant de voir Marquinhos dans ce rôle-là. On l'avait vu aussi l'an passé, je crois que c'était contre Liverpool, il avait ce rôle un peu hybride, au milieu de terrain défensivement, il décrochait pour être face au jeu justement. Donc il y a plein d'adaptations.
Non, mais on va dire qu'il s'adapte grâce à une énorme générosité et débauche d'énergie. Mais techniquement, il a quand même une petite limite. Non,
mais c'est pour ça qu'on peut aussi, au sein d'un même match, le faire jouer dans une zone différente, offensivement et défensivement, pour optimiser ses forces et effacer un petit peu ses faiblesses. On va le mettre au milieu de terrain si on veut renforcer l'entrejeu quand on n'a pas le ballon, et on va le faire reculer d'un cran en défense pour le mettre face au jeu.
Oui, mais je pense que moi, en fait, ce qui me choque plus, t'as raison sur Marquinhos, parce que attends, moi, je suis assez sévère avec lui quand il joue au milieu, mais c'est pas. Parce que Pierre a raison, techniquement, quand il est face au jeu, tu le vois quand il est derrière, il a une bonne passe longue, il voit juste, techniquement, il n'a pas les pieds carrés, donc ça va. Il l'a noté, le problème, c'est l'adaptation au milieu, parce que quand tu reçois le ballon dos au jeu, ou de trois quarts, ou truc, c'est comment tu arrives à mettre ton équipe vers l'avant, tu vois. Comment tu arrives à insuffler, si tu veux, un pressing, parce que ce poste-là, aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'il a des lacunes, et moi, je suis sévère avec le PSG quand ils mettent Marquinhos comme ça, parce que quand je vois les moyens qu'il y a dans ce club et que tu construis un effectif en te disant je vais prendre tel milieu et que tu te retrouves toujours tous les ans sur des matchs à élimination directe, des matchs importants, à te foutre Marquinhos au milieu de terrain, moi ça, pour moi, c'est problématique, parce que Marquinhos dans un autre club moins, avec des moyens, on parlait de Nagelsmann. Tu vois, tu le fous à Leipzig aujourd'hui avec les moyens. Moi, ça me choquerait pas de voir Marquinhos au milieu de terrain. La politique du club est comme ça. Donc le joueur, mais à Paris, ça me choque. Après, il peut le faire, bien sûr.
Qu'il y a quoi, qu'il y a un vrai spécialiste, quoi, qu'on soit pas obligé de.
Ça me paraît logique. Quand tous les ans, on te dit milieu.
Adapté.
Oui. Bah, moi, je pense qu'il y a
de saison aussi.
Bon, au départ, c'était pas du tout ce que je voulais dire, moi, dans la discussion, mais c'est pas grave. On est parti sur Marquinhos. Demain, tu reviens, on parlera des coups de pied arrêtés. Demain, et tu vas notamment développer ta théorie sur les corners, qui est très intéressante.
Finalement, est-ce que les corners, c'est ton début de théorie?
Est-ce que les corners, c'est une occasion de but?
Est-ce que c'est une occasion de but?
Vous l'avez envoyé il y a 10 jours, faut que je replonge dedans.
D'accord.
Et oui, parce qu'à chaque fois, tu sais, par exemple, quand il y a un multiplex, tu vas dire, oh, on va tout de suite à Amiens, il y a un corner. Alors que ça se trouve, en fait, le corner, ça fait rien du tout.
Moi, si j'étais entraîneur, il faudrait que ce soit une occasion tout le temps.
C'est pas si évident, malheureusement.
C'est vrai, mais il me faudrait l'équipe un mec qui les tire pour que ce soit tout le temps une occasion.
C'est logique.
C'est pas le cas partout.
Le problème, c'est qu'en face, il y a aussi une équipe.
C'est pas le cas partout. Et là, je te parle de la France.
On en parlera demain.
Encore une fois, c'est pas le cas. Ouais, je garde mes arguments pour demain.
Excellent. Merci, Julien.